Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui dans l'Évangile de Saint-Marc va guérir un sourd muet. Les sourds et les muets, évidemment, étaient des malades très fréquents à l'époque, mais les pères de l'Église interprètent toujours de la même façon ce genre de maladie. Ces maladies physiques que notre Seigneur Jésus-Christ guérissait souvent représentent en fait des maladies spirituelles qui sont cachées derrière la maladie physique. Le sourd-muet guéri, c'est donc pas simplement quelqu'un qui retrouve l'usage de l'ouïe et l'usage de la parole, c'est quelqu'un qui avait une âme qui était sourde, quelqu'un qui avait une âme qui était muette et qui va retrouver par la grâce du bon Dieu le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui va retrouver l'usage pour son âme de l'ouïe et de la parole. Essayons de voir un petit peu comment les pères de l'Église expliquaient ces choses-là, puisque c'est eux, comme vous le savez, qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte. D'abord, le sourd, c'est celui qui n'entend pas, n'a plus d'ouïe. Eh bien, les pères expliquent que le sourd, c'est d'abord celui qui refuse d'écouter sa conscience, qui refuse d'entendre sa conscience, qui refuse d'écouter les grâces actuelles que le bon Dieu lui donne au cours de la journée pour que justement il puisse se reprendre et se remettre sur le bon chemin. Le sourd, c'est donc quelqu'un qui se coupe complètement des grâces actuelles du bon Dieu parce qu'il veut rester dans sa volonté propre. Et refusant de sortir de sa volonté propre, il n'entend plus évidemment tous ceux qui autour de lui, le bon Dieu ou des bons conseils qu'il puisse recevoir à droite et à gauche, il n'entend plus tous ceux qui lui donnent des conseils justement pour se reprendre, se remettre sur le chemin qui mène à Dieu. Le sourd, c'est aussi celui qui refuse catégoriquement, si vous voulez, de penser à venir se confesser. La surdité spirituelle, c'est une maladie épouvantable de l'âme, par lequel, en quelque sorte, le chrétien qui est sourd spirituellement refuse complètement de voir quoi que ce soit. C'est pour ça que la plupart du temps, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle d'un sourd-muet, très souvent, ce n'est pas le cas ici dans Saint-Marc, mais très souvent, ce sourd-muet est aussi quelqu'un qui est aveugle. Parce que quand on est sourd, quand on n'écoute plus les grâces du bon Dieu, on n'écoute plus la parole du bon Dieu, on n'écoute plus les conseils que nous pouvons recevoir à droite ou à gauche, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre âme va devenir non seulement sourde, mais va devenir également aveugle. Elle ne voit plus les choses. Elle voit un monde complètement artificiel, se coupe de la réalité et commence à vivre dans un monde virtuel. Je pense que c'est vraiment la caractéristique de ce monde moderne dans lequel on est. On vit dans un monde totalement déconnecté du réel. Un monde virtuel. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que justement, nous sommes composés de corps et âme. La réalité, c'est que tout ce que ça nous plaise ou non, nous allons un jour mourir et qu'après notre mort, nous serons jugés par Dieu. Voilà la réalité. Et donc, il faut justement utiliser en quelque sorte cet évangile pour comprendre que le bon Dieu nous demande à chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe de sortir de cette surdité, de sortir de cette cécité intellectuelle qui nous coupe complètement des grâces du bon Dieu. Voilà pourquoi celui qui est sourd, il est aussi muet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie ce mutisme? Ce mutisme, c'est un mutisme spirituel, bien sûr. C'est la personne qui a peur, si vous voulez, d'avouer ses péchés au confessionnal, et le bon Dieu va en quelque sorte lui sceller la bouche pour qu'il ne puisse pas accuser ses péchés. Celui qui est sourd intellectuel, qui est muet spirituellement, donc quelqu'un qui refusera catégoriquement d'accuser ses péchés ou qui va mentir au confessionnal afin justement de ne pas accuser correctement ses péchés. Et donc les sacrements, surtout le sacrement de la confession, quand ils sont reçus correctement, eh bien, ce sacrement de confession va nous aider en quelque sorte à sortir de cette surdité, ce mutisme, cette cécité spirituelle qui mène évidemment les âmes loin de tout. Oui, bien, chers frères, ce qu'il faut comprendre, c'est la première chose, je pense, à comprendre. Et si nous ne comprenons pas ces deux choses-là, ces trois choses-là plutôt, cette surdité, ce mutisme et cette cécité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber ou dans le découragement le plus complet, ou alors on va tomber au contraire dans la présomption. un découragement plus complet parce qu'on n'arrive pas à se reprendre en main. Alors on se dit, bon, ben, je suis bon à rien, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et du coup, on cherche trop à s'en tirer par ses propres forces. Et étant incapable de s'en tirer par ses propres forces, on tombe de plus en plus profond dans le découragement, profondément dans le découragement. Et le bon Dieu, pour nous sortir de ces maladies spirituelles, il utilise toujours notre libre arbitre. Le bon Dieu ne convertit pas les gens sans une participation des personnes à convertir. Imaginez quelqu'un en quelque sorte qui est tombé dans un puits très profond. Eh bien, il ne peut pas sortir de ce puits. Il a besoin d'une aide extérieure. Il ne peut pas sortir par lui-même. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le bon Dieu, il va tendre une corde en quelque sorte qui va descendre depuis la margelle du puits, soutenue par le bon Dieu, et qui va descendre jusqu'à la personne. Et le bon Dieu va nous dire, prends la corde et je te remonte. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit? On dit, non, moi je suis un grand garçon, je suis une grande fille, j'en sors tout seul. On est incapable de sortir tout seul. Et à cause de notre orgueil, souvent nous restons au fond du puits parce que nous estimons que nous sommes suffisamment forts pour pouvoir sortir tout seul de ce puits. C'est absolument impossible. N'oublions pas que la confession, certes, est un sacrement extraordinaire, mais que pour pouvoir le recevoir dignement, il faut avoir des grâces spéciales du bon Dieu. Souvent, on entend ces réflexions qui sont bien tristes, qu'on entend régulièrement, notamment chez les jeunes, qui disent « Oui, monsieur l'abbé, je sais, je vais faire des bêtises samedi soir, mais vous comprenez, dimanche matin, j'irai me confesser. » On entend ça très souvent. On oublie que pour pouvoir se confesser le lendemain, il y a un certain nombre de conditions qui sont indispensables. Et si ces conditions ne sont pas remplies, on ne va pas se confesser. Première chose, c'est d'être vivant. Évidemment, on peut mourir dans la nuit du samedi au dimanche. Ça arrive à des gens très bien. Deuxième condition, évidemment, c'est de trouver un prêtre. Par les temps qui courent, ce n'est pas forcément évident. Et troisième condition, c'est d'avoir reçu la grâce actuelle qui nous amène au confessionnal avec la contrition surnaturelle. Et sans cette grâce actuelle qui nous amène au confessionnal pour obtenir la contrition surnaturelle, on va avoir une contrition purement naturelle de nos péchés. Question qu'on peut se poser est la suivante. Est-il possible pour moi, après une faute grave, de regretter par mes propres forces mon péché mortel? Impossible. Saint Thomas d'Aquin est absolument catégorique dans son traité sur la grâce. On ne peut pas même commencer à avoir le regret de nos fautes sans des grâces spéciales du bon Dieu qu'on appelle les grâces actuelles. N'oubliez pas, mes bien chers frères, qu'il y a des hérésies terribles qui ont été condamnées justement par l'Église pour ces raisons-là. Vous avez entendu parler du pélagianisme, par exemple. Qu'est-ce que c'était que le pélagianisme au premier siècle de l'Église? C'était les gens qui se disaient, on peut se préparer à la confession par nos propres forces, on peut se préparer à la conversion par nos propres forces. Utilisant mes propres forces, je peux m'amener moi-même ou amener quelqu'un au fond baptismal et obtenir le baptême de cette personne, obtenir la conversion de cette personne. L'Église a condamné ce pélagianisme. Alors, ce sont arrivés des petits malins qui se croyaient bien plus malins que tout le monde et qui ont dit, mais on peut au moins commencer à se mettre sur le chemin du salut. Je commence à me mettre sur le chemin du salut, puis ensuite le bon Dieu arrive par derrière pour m'aider. Et ça aussi, ça a été condamné par l'Église, sous le nom de semi-pélagianisme. Pourquoi? Parce que même pour commencer à se mettre sur le chemin du bon Dieu, on a besoin du bon Dieu. Certes, le bon Dieu ne refuse jamais ses grâces actuelles à celui qui les demande avec humilité. Mais sans les demander, sans ces grâces spéciales que le bon Dieu donne à ceux qui pratiquent cette vertu d'humilité, on n'arrive pas justement à avoir cette confession surnaturelle. Et c'est terrible, ça m'est arrivé quelquefois de voir au confessionnal, pas forcément ici, dans d'autres pays, de voir au confessionnal parfois des gens qui accusent leur péché mais ils n'ont pas de contrition surnaturelle. Ils ont une contrition purement naturelle. Et une contrition purement naturelle, c'est une contrition qui vaut rien. Même si vous accusez tous vos péchés, s'il manque le caractère surnaturel de la contrition est invalide. C'est dans toutes les dans le Concile de Trente. Qui dit que pour que la contrition soit au moins une contrition imparfaite, c'est-à-dire le regret de ses péchés par peur de l'enfer, il faut impérativement, nous dit le Concile de Trente, que cette contrition qui est en nous, que cette douleur qui doit être en nous, soit une douleur surnaturelle, une douleur interne, une douleur universelle, une douleur surnaturelle et une douleur souveraine. Surnaturelle, ça veut dire quoi? Qui vient de la grâce du bon Dieu. Donc encore une fois, n'oublions pas cela, mes bien chers frères. Nous ne pouvons pas regretter nos péchés sans une douleur, sans des grâces spéciales du bon Dieu pour obtenir cette douleur surnaturelle qui nous permet à ce moment-là de recevoir avec fruit la sainte absolution. C'est de ces gens-là dont notre Seigneur Jésus-Christ parle quand il parle justement des sourds, des muets et des aveugles. Et il y a dans l'épître d'aujourd'hui une phrase aussi qui rejoint tout à fait cet évangile. Saint Paul nous dit que c'est par la grâce qu'il a tout reçu. Et sans cette grâce, il ne peut rien. Il dit, la grâce du bon Dieu a travaillé en moi, et avec la grâce du bon Dieu, cette grâce n'a pas été stérile. C'est ce qu'il dit. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ parlant par Saint Paul, explique que la grâce dans Saint Paul n'a pas été stérile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, dans le cœur, dans l'âme de d'autres personnes, cette grâce peut être stérile. Le bon Dieu donne des grâces, et malheureusement, dans bien des cas, ces grâces ne sont pas reçues correctement par la personne. Et donc le bon Dieu, sachant, lui qui sait tout, sachant par avance que telle personne ne va pas accepter volontairement cette grâce, va donner à cette personne ce qu'on appelle une grâce suffisante, qui n'est pas une grâce efficace et qui donc sera incapable d'amener la personne à la contrition réelle de ses péchés, à la contrition surnaturelle de ses péchés. Voilà, mes bien chers frères, je crois ce qu'il nous faut comprendre avec les textes de l'Évangile, le texte de l'Épître d'aujourd'hui. Et on peut évidemment prendre comme exemple le saint d'aujourd'hui, Saint Ignace de Loyola, qui est fêté aujourd'hui, donc ce 31 juillet, qui est le patron de la maison de retraite, juste à côté. Saint Ignace de Loyola était un grand pécheur, il s'est converti par le travail de la grâce. Et ce travail de la grâce a fait en lui un travail extraordinaire, et Saint Ignace de Loyola est devenu certainement un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Ne serait-ce parce que c'est lui qui a fondé l'ordre des Jésuites, qui a été pendant très très longtemps l'ordre le plus important de l'histoire de l'Église, le plus grand ordre missionnaire qui existait. Malheureusement, plus on saute de haut, plus on se fait mal, l'ordre des Jésuites, qui était de loin le plus important, a aujourd'hui littéralement, virtuellement, totalement disparu. Il n'y a pratiquement plus un seul Jésuite qui a encore la foi dans le monde. Et à ce propos, je voudrais faire une petite remarque, parce que ce sont des choses qu'on entend beaucoup trop souvent dans le milieu traditionnel. Je reçois régulièrement des messages électroniques ou du courrier à ce sujet. Certains traditionnalistes ont ces idées bizarres que Saint Ignace de Loyola est un faux saint. On reçoit des lettres de gens qui nous disent « Monsieur l'abbé, Ignace de Loyola, il n'est pas canonisable ». Il n'est pas canonisé parce que, comme chacun sait, c'était un juif mal converti, c'était un marane, et donc ce n'était pas vraiment un saint. Attention, mes bien chers frères, l'Église catholique est infaillible dans les canonisations des saints. Et donc, lorsque l'Église catholique a canonisé Saint Ignace de Loyola, en canonisant Saint Ignace de Loyola, elle le canonise de façon définitive. C'est la raison principale pour laquelle on peut prouver très facilement que les autorités actuelles qui sont à Rome ne peuvent pas être les autorités légitimes, précisément parce qu'ils canonisent n'importe qui. Donc attention à ces choses-là. L'ordre des Jésuites est un ordre qui a été détesté par le monde et surtout par les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et connu historiquement, la haine des francs-maçons s'adressait surtout aux Jésuites, contre les Jésuites. Donc nous n'avons pas le droit de dire ces choses-là, de dire que le Saint Ignace de Loyola n'était pas vraiment un saint catholique. On entend beaucoup trop de catholiques dans la tradition qui traitent les jésuites avec le plus grand mépris, en disant que le supérieur général des jésuites, c'était ce qu'on appelait le pape noir. Il y avait donc deux papes, le pape blanc, le pape noir, le pape blanc étant le vrai pape, le pape noir étant le faux pape qui avait autorité pour essayer de détruire le pape blanc. Vous avez entendu parler de toutes ces, même ces sectes qui existent actuellement et qui font un dégât énorme dans la tradition, justement, qui racontent des bêtises énormes sur ce sujet. Il y a simplement l'exemple d'un groupe musical qui a fait beaucoup, beaucoup de mal à cause de ça, le groupe des Brigandes. Même s'il y avait peut-être quelque chose de bon sur le plan purement musical avec ce groupe, derrière il y a une secte notamment qui essaie de détruire toute l'œuvre de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola est une personne extrêmement, extrêmement importante dans l'Église, justement parce qu'il a répondu à la grâce du bon Dieu. Alors je ne peux que vous conseiller, pour ceux qui ne connaissent pas encore les exercices de Saint-Ignace, ou pour ceux qui ne sont pas revenus aux exercices depuis bien longtemps, prenez au fond de la chapelle, j'ai mis les feuilles jaunes, les feuilles de retraite, nous avons ici une ou deux retraites par mois, la maison de retraite à côté, donc prenez ces feuilles et puis envisagez de venir faire les exercices de Saint-Ignace. Les exercices de Saint-Ignace sont tellement puissants, mes bien chers frères, qu'ils peuvent conduire, qu'ils peuvent convertir n'importe qui. Je pourrais parler pendant des heures sur les merveilleuses conversions que nous avons pu avoir grâce à Dieu dans la maison Saint-Ignace. Nous avons eu des musulmans qui se sont convertis, nous avons eu des protestants qui se sont convertis, j'ai même eu parfois des juifs convertis. N'importe qui peut se convertir aux exercices Saint-Ignace, Saint-Ignace à condition bien sûr qu'ils suivent les règles toutes simples que Saint-Ignace donne au début de ses retraites. Et n'écoutez pas aussi ceux qui vous disent, encore une fois, c'est une calomnie très fréquente, ceux qui vous disent les exercices Saint-Ignace c'est simplement pour les gros pécheurs. Complètement faux. Saint Vincent de Paul les faisait deux fois par an. Une fois pour lui, disait-il, une fois pour les autres. Donc les exercices Saint-Ignace ça s'adresse à tout le monde, aux gros pécheurs bien sûr, mais aussi aux petits pécheurs, aux moyens pécheurs, comme vous voulez. Tout le monde peut trouver dans les exercices de Saint-Ignace la grâce dont ils ont besoin. Surtout actuellement, parce que les exercices Saint-Ignace, c'est d'abord et avant toute chose une école d'oraison. On apprend aux gens à faire oraison. 99,9% des catholiques aujourd'hui sont incapables de faire oraison, ils n'ont jamais appris. Donc ils n'ont plus de vie intérieure. Parce que s'il n'y a pas l'oraison qui alimente la vie intérieure s'étiole et finit par disparaître. Voilà pourquoi, mes chers frères, nous avons tous besoin de faire oraison et donc nous avons besoin de suivre les exercices Saint-Ignace, je dirais, une fois tous les deux ans, voire même une fois par an, c'est encore mieux, afin justement d'apprendre à faire oraison et avoir une âme qui soit littéralement immergée dans notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas, mes bien chers frères, que nous ne vivons plus au Moyen-Âge, malheureusement. Nous ne sommes plus sous Saint-Louis. Nous sommes sous Hollande, c'est pas tout à fait pareil. Nous ne sommes plus sous tous ces grands saints qui littéralement évangélisaient le sol de la terre partout dans le monde entier. Tout ça, c'est fini, malheureusement. À l'époque de Saint-Louis, je pense qu'on pouvait vraisemblablement se sauver qu'un petit minimum. Peut-être simplement avec la messe du dimanche et la confession une fois par mois. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère générale de la France était chrétienne. Malheureusement, cette atmosphère est morte, elle a disparu complètement, elle n'existe plus. Et aujourd'hui, on ne peut plus se sauver qu'un petit minimum. C'est absolument impossible parce que justement, nous vivons dans un monde complètement déchristianisé. Alors le bon Dieu, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande des héros de la foi. Il demande des gens qui peuvent donner beaucoup plus précisément parce que nous sommes en période de grande persécution morale. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons impérativement besoin, à mon avis, de l'oraison. Et je vois partout, je l'ai vu partout, je suis passé dans le monde entier en tant que prêtre missionnaire auparavant, les gens qui tiennent le coup, en fait, dans la pratique, dans le monde moderne, sont les gens qui font raison. Malheureusement, ils ne sont pas très nombreux. Rien que cela, pour moi, c'est suffisant pour essayer de convaincre les gens de venir faire les exercices une fois par an. C'est cinq jours de retraite, c'est certes très comprimé, mais qui nous permettent de remettre vraiment les âmes dans l'esprit de raison pour qu'ils puissent se sauver. Il y a même des docteurs de l'Église, et je pense qu'ils ont raison, qui disent qu'au temps où l'Évangile était publiquement prêché partout et accepté partout, surtout par les puissances politiques, par exemple au XIIIe siècle, en France, en Europe, on le voit très bien, un siècle d'or, eh bien, ils pensent que la plupart des gens se sauvaient à l'époque. C'est une thèse qui, à mon avis, peut être acceptée. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, nous vivons malheureusement dans un temps tel que, hélas, la plupart des gens se damnent. C'est malheureusement parfaitement évident, surtout quand on reprend les phrases de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle de la voie étroite qui mène au paradis, la voie large qui est prise par la plupart des gens, qui mène à l'enfer, qui mène à la perdition. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Est-ce qu'il faut se décourager complètement, se tirer une balle dans la tête? Bien sûr que non. La solution, elle est où? La solution, eh bien, chaque fois, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. La seule solution aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est la sainteté personnelle. La sainteté personnelle. Alors, dès qu'on parle de saint, les gens paniquent complètement. Ils imaginent qu'un saint, c'est quelqu'un qui mange une patate pourrie tous les 15 jours et qui doit se flageller pendant 2 heures de telle façon que le sang de la flagellation passe sous la porte. Mais ce n'est pas ça du tout, un saint. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Un saint, mes bien chers frères, c'est quelqu'un qui pratique son devoir d'état de chaque jour pour la plus grande gloire du bon Dieu avec le sourire. N'oublions pas la troisième partie, s'il vous plaît. Et ceci est capital. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? On a besoin de saints et de saintes. On a besoin de saints pères de famille qui remplissent leur travail. On a besoin de saintes mères de famille qui remplissent leur travail également. Et de saints enfants qui aussi se sanctifient par la pratique de leur devoir d'État. C'est comme cela qu'on arrivera à remonter avec la grâce du bon Dieu, remonter cette pente terrible que la civilisation moderne a complètement dévalée depuis maintenant plusieurs siècles, pour pouvoir remettre notre Seigneur Jésus-Christ dans les âmes. N'oublions pas que la nature a horreur du vide. Si on ne met pas notre Seigneur Jésus-Christ dans les âmes, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place, et ce quelqu'un d'autre qui prend la place, c'est évidemment le démon. Alors demandons, eh bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses-là. S'il y en a une qui avait l'esprit de raison, c'est bien elle. Rappelez-vous ce qu'il est dit dans l'Évangile en Saint-Luc. Elle gardait toutes ces choses en son cœur, les méditant sans cesse. Parce qu'elle n'a pas pu tout comprendre, c'est impossible. Même quand l'ange Gabriel était venu lui annoncer qu'elle allait devenir la mère du Sauveur, lui demandant son consentement pour devenir la mère de Dieu, eh bien, elle ne comprenait pas, puisqu'elle a dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et certainement, au pied de la croix, lorsqu'elle a vu son fils exsangue sur la croix, passer par les tortures épouvantables, certainement qu'elle n'a pas tout compris. Mais même si elle ne comprenait pas tout, elle était au pied de la croix, elle a rempli son devoir d'État. Et le fait qu'elle est sainte parce qu'elle est mère de Dieu d'abord et avant toute chose, mais la très sainte Vierge Marie nous donne un exemple typique d'une personne qui se sanctifie par l'oraison et par la pratique de son devoir d'État. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, demandons-lui de nous aider à comprendre toutes ces choses, à faire passer dans l'âme de nos enfants justement cet amour du bon Dieu qui passe par l'amour de la très sainte Vierge Marie. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Thank you.